Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. La preuve, c'est que ce soir, nous sommes avec des journalistes de la rédaction ukrainienne et de la rédaction russe. Ce soir, justement, Xenia Jandoklé de la rédaction ukrainienne. Vous nous ferez écouter des témoignages de femmes de prisonniers, des soldats du régiment Azov. Pour la rédaction russe, Elsa Vidal. Bien sûr, vous reviendrez sur la mort d'Alexei Navalny et Paul Myers de la rédaction anglophone.
Good evening.
Tout autre chose avec vous, avec du sport, du football et le départ de Kylian Mbappé du PSG. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine qui, dans quelques heures, entrera dans sa troisième année. Alors, quel bilan, quelle perspective? Nous allons voir cela. Xenia, demain marque donc les 2 ans de l'invasion à grande échelle. Ce n'est pas 2 ans de guerre, car pour les Ukrainiens, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a commencé bien avant.
Oui, tout à fait. Pour eux, elle a commencé en 2014 avec l'invasion de la Crimée.
Et donc, pendant plusieurs années, Vladimir Poutine a préparé son armée à finir le travail, si je puis dire, avec donc l'invasion du reste du pays. Il y a deux ans de cela, enfin, à commencer. Les principaux combats, aujourd'hui, Xenia, se poursuivent dans l'est et dans le sud de l'Ukraine. Hein.
Tout à fait. Les batailles les plus féroces ont lieu pour Soledar, Bakhmut, Mariinka et Avdiivka. Et chaque jour, l'armée russe bombarde des bâtiments résidentiels, des écoles, des hôpitaux et détruit les infrastructures civiles. Parmi les attaques les plus sanglantes de la deuxième année de la Grande Guerre, on peut citer le bombardement de meubles à Dnipro, Oumань, le marché de Konstantinovka, le village de Groza dans la région de Kharkiv et le café à Konstantinovka, Kramatorsk, pardon. Le 6 juin, l'armée d'occupation russe a fait exploser la centrale hydroélectrique de Kakhovka, provoquant une catastrophe humaine de grande ampleur. La contre-offensive attendue des forces armées ukrainiennes ne porte pas ses fruits, mais l'armée ukrainienne parvient à détruire un tiers de la flotte russe de la mer Noire. Il a été décidé de réinitialiser le commandement militaire. Oleksandr Sirski est devenu le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes à la place de Valery Zaloujny.
Elsa, Xenia vient de parler d'Advika. Ce qui s'est passé, vous voulez y revenir également?
Oui, exactement, parce que en cette période charnière qui va nous faire entrer dans la troisième année de l'offensive de grande ampleur en Ukraine, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu, a informé Vladimir Poutine de la prise récente d'Avdiivka le 17 février, une ville de 33 000 habitants dans l'est de l'Ukraine, qui d'ailleurs n'a plus à proprement parler la qualité de ville tellement elle est détruite. Et cette prise est venue concrétiser les difficultés de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille et redonner un avantage relatif à la Russie sur ce dernier.
On écoute peut-être?
Oui, on écoute Shoigu.
Освобождение Авдіївки – это безусловный успех. Российским военнослужащим удалось провести операцию по взятию территории при минимальных потерях.
Ministre de la Défense, ministre russe.
Alors là, c'est un présentateur qui commente la déclaration de Shoigu qui s'est rendu auprès de Vladimir Poutine pour lui rendre compte de l'avancée et du résultat de cette bataille. Et il l'a fait en louant un résultat obtenu au prix de pertes minimales parmi les combattants russes. Et c'est une vidéo qui a été largement commentée en Russie sur les réseaux sociaux, puisque contrairement aux déclarations du ministre, certains blogueurs des camps, les blogueurs de guerre comme Andrei Morozov, surnommé Mours, ont au contraire décrié ces résultats et dit que si Avdiivka avait bien été remportée, c'était au prix de pertes 10 fois supérieures à celles annoncées par le ministre. Et ce blogueur de guerre dont je viens de vous parler a été pris pour cible par ceux qui sont d'habitude sur la même ligne que lui, tant et si bien qu'il s'est donné la mort le 21 février, n'ayant pas résisté aux attaques qu'il accusait d'être un traître et de diffamer l'armée russe.
Oui, la question des pertes, c'est-à-dire des soldats qui ont été tués, comme des civils d'ailleurs, c'est très difficile, hein, Xenia, de dresser un bilan de ces 2 années de combat.
Oui, tout à fait. La mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU analyse que les pertes confirmées et identifiées. Au total, depuis 2 ans, ce sont 30 000 victimes civiles, 10 000 tués et 20 000 blessés, dont 1 570 enfants. Plus de 1 000 établissements d'enseignement et près d'un demi-millier d'installations médicales ont été détruits ou endommagés. Les milliers de gens portés disparus, près de 20 000 enfants déportés en Russie, et ce sont que des enfants identifiés. D'ailleurs, hier, Volodymyr Zelensky a avoué que les pères de l'armée ukrainienne comptent par des dizaines de milliers. Un soldat ukrainien pour 5 soldats russes. Quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Mais toutes les grandes villes d'Ukraine ont au moins une dizaine d'enterrements par semaine. Et puis, on compte désormais plus de 6,5 millions de réfugiés ukrainiens dans différents pays du monde. L'essentiel s'est installé en Europe et près de 500 000 dans d'autres parties du monde.
Elsa, que pouvez-vous nous dire, vous, sur les pertes russes et ukrainiennes ?
Malheureusement, assez peu de choses, parce que en ce qui concerne les pertes militaires officielles, non seulement on ne les connaît pas pour la bataille d'Avdiivka qu'on vient d'évoquer, mais non plus pour la guerre en elle-même. La question des pertes militaires dans ce conflit demeure l'objet d'un quasi-blackout de la part des deux États. Officiellement, côté russe, on a eu une estimation en septembre 2022, extrêmement, conservatrice. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lui encore, avait reconnu la mort de presque 6 000 militaires russes. Mais selon un décompte très récent de la BBC et du média Mediazone, au moins 45 000 Russes ont été identifiés personnellement et ont péri. C'est sur la base d'ailleurs de leurs données d'état civil et notamment de leur nécrologie que ce décompte a été fait. Ce projet estime qu'en 2023, la Russie a perdu une fois et demie plus de soldats qu'en 2022 et que tout particulièrement, c'est dans la bataille de Barmout, qualifiée de hachoir à viande, qui avait d'ailleurs été le déclencheur de la colère d'Evgeny Prigojine contre son mentor, chef et mentor. Donc c'est tout particulièrement dans la bataille de Barmout que la plupart de ces soldats russes en 2023 ont péri.
Alors justement, le soldat russe, son profil de cet homme, donc parti faire la guerre en Ukraine, a évolué en deux
énormément,
ans. 2022-2023.
Oui, la première année de la guerre, si on en croit toujours Mediazone et BBC, le soldat russe moyen qui était parti combattre en Ukraine avait à peu près 21 ans, était un contractuel et servait dans les troupes d'assaut ou encore dans les fusiliers motorisés. En 2023, en revanche, c'est un homme de 34 ans, prisonnier, envoyé sur le front directement depuis la prison. Et si en 2022, le recrutement était particulièrement effectué par la compagnie militaire privée Wagner, en 2023, il était du ressort exclusif du ministère de la Défense. Encore une fois, l'une des batailles qui a le plus causé de pertes a été celle de Bakhmout. Prigojine avait alors estimé qu'environ 20 000 de ses musiciens étaient tombés au champ d'honneur ou du déshonneur. Et quant à Mediazona, ils indiquaient que parmi ces 20 000 morts, 6 600 environ étaient tirés des rangs des prisonniers.
Vous avez dit musiciens, pas soldats, oui. C'est pas un lapsus.
Ce n'est pas un lapsus, c'est ainsi que parfois on désigne les combattants du groupe Wagner.
Quelle région contribue le plus aux régiments russes qui combattent en Ukraine, Elsa ?
Alors, en valeur absolue, c'est la région de Krasnodar qui a le plus de combattants, qui fournit le plus de combattants. Mais elle est suivie aussi par d'autres régions de l'est de la Russie, comme Tcheliabinsk, ou par une république qu'on dit autochtone, la Bachkirie, où des protestations se sont déroulées récemment. Mais rapportée à la densité de population, c'est la république de Bouriatie, une république de peuples autochtones de Sibérie, qui présente pour ces hommes le plus grand risque de mourir à la guerre, un risque de 30 à 40 fois plus élevé que pour les hommes de Moscou. Malgré tout, Mediazona et BBC soulignent que ce sont quand même les Slaves et les Slaves de province qui combattent le plus en Ukraine en 2023. Et ce qui est expliqué par ces deux médias, par le fait qu'ils proviennent principalement de la population carcérale. Alors que l'élection présidentielle approche, la question centrale en Russie va être celle d'une possible mobilisation générale ou deuxième vague de mobilisation. Celle-ci est naturellement plus attendue parce qu'elle a été rendue possible par un processus digitalisé désormais. Et elle achèverait cette mobilisation à venir, si elle se produisait, de renforcer l'avantage démographique de la Russie sur l'Ukraine avec un hiatus ou un différentiel d'à peu près 3 à 4 fois.
C'est-à-dire 143 millions de Russes et
44 millions d'Ukrainiens.
Xenia, sur la scène internationale, de nombreux pays traitent la Russie en paria, alors que l'Ukraine fait entendre sa voix.
Oui, tout à fait, Philippe. Le 19 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution visant à créer un tribunal spécial pour les hauts dirigeants de la Russie et de la Biélorussie en raison de l'agression armée contre l'Ukraine. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine et les sanctions anti-russes sont renforcées. La voix de l'Ukraine se fait de plus en plus entendue sur la scène internationale. Le Conseil européen approuve la décision d'entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Les pays occidentaux continuent d'aider l'Ukraine. Ils fournissent des armes et des financements. Des traités bilatéraux de sécurité ont été signés avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le monde travaille également sur la formule de la paix proposée par le président Volodymyr Zelensky.
Paul Myers, le service en anglais a travaillé également sur l'impact de la situation en Ukraine en termes diplomatiques.
Oui, il y a un an, par exemple, nous nous sommes penchés sur le sommet du G20 en Inde, où les ministres de finances du G20 ont eu du mal à se mettre d'accord sur une déclaration de clôture commune après leur discussion, parce que la Chine voulait diluer toute référence à la guerre en Ukraine dans la déclaration de clôture. Et puis les ministres des Affaires étrangères du G20 n'ont pas non plus réussi à trouver un consensus. Mais un an plus tard, plutôt nous sommes concentrés sur le fait que l'Union européenne a approuvé un 13e paquet de sanctions contre la Russie. Ça prévoit l'interdiction de près de 200 organisations et personnes accusées d'aider Moscou à se procurer des armes ou d'être impliquées dans l'enlèvement des enfants ukrainiens. Et en fait, il est entendu que les listes se répartissent entre les organisations et les personnes qui font partie du complexe militaro-industriel russe. C'est un peu... Wow! Et celles qui sont impliquées dans le trafic et l'enlèvement d'enfants ukrainiens.
Comme vous l'avez dit, il s'agit du 13e paquet de sanctions.
Cette fois, la Belgique, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré sur les médias sociaux que ce train de mesures était l'un des plus vastes approuvés par l'Union européenne.
La question est de savoir si ça fera une grande différence cette fois.
Oui, exactement. Et dans l'un des articles préparés pour être publié ce week-end, nous nous penchons sur les grandes préoccupations géopolitiques de Vladimir Poutine. Nous nous sommes entretenus avec le professeur Serhiy Plokhy, qui est le directeur de l'Institut de recherche ukrainienne de l'Université de Harvard aux États-Unis. En fait, il dit que Poutine essaie de refaire quelque chose que président Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin, le premier ministre russe, ont décidé de terminer il y a 33 ans avec l'éclatement de l'Union soviétique.
Any attempts to recreate the Russian control over the post-Soviet space, none of that would actually fly, would work without Ukraine.
Alors, qui parle?
Le professeur Plokhy nous dit que toute tentative de recréer le contrôle russe sur l'espace post-soviétique est vouée à l'échec sans Ukraine. Ainsi, tout le projet de domination russe de l'espace post-soviétique est voué à l'échec si l'Ukraine n'est pas de la partie. Et en fait, ce qui a été démontré après l'indépendance d'Ukraine il y a 33 ans, et en fait, c'est ce que démontre la guerre actuelle. Et en fait, c'est la raison pour laquelle la guerre se déroule en Ukraine, la raison pour laquelle la Russie a attaqué l'Ukraine. Et parce que l'enjeu n'est pas seulement l'Ukraine, c'est le contrôle russe sur l'espace post-soviétique.
Et j'ajoute que les États-Unis viennent d'annoncer leur plus importante salve de sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a tout juste 2 ans, ciblant cette fois plus de 500 personnes et organisations de différents pays. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 часов в Париже,
20
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et sur la guerre en Ukraine, poursuivons avec vous, Xenia Jornoclé, plus particulièrement concernant le sort des soldats du régiment Azov. Il faut remonter au 16 mai 2022. Ce jour-là, les défenseurs de Marioupol quittent les abris d'Azovstal sur ordre de leurs supérieurs. Ils ont défendu la ville de Marioupol pendant 86 jours. Et à la fin, plus de 2000 soldats ukrainiens quittent l'usine. Un millier d'entre eux est membre de la 12e brigade des forces spéciales Azov de la garde nationale. Alors, ils quittent l'ancienne usine avec des garanties de sécurité de l'ONU et de la Croix-Rouge. Et la plupart d'entre eux ont vécu l'enfer de la captivité russe pendant près de 2 ans, Alexandra.
Oui, et à la maison, leurs proches les attendent. Les proches qui croient toujours que leurs compagnons passeront cette cruelle épreuve et vont les rejoindre. Notre rédaction a parlé cette semaine avec plusieurs femmes de combattants qui nous ont confié leur histoire. Et depuis 1 an et 9 mois, elles font tout pour ramener les hommes qu'elles aiment dans leur pays. Depuis le temps d'emprisonnement, ces femmes sont en attente de nouvelles, souvent en vain, car les nouvelles arrivent surtout à travers des prisonniers ukrainiens livrés pendant des rares échanges. Nous avons discuté avec Katerina, une jeune femme qui attend son fiancé. Le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion, Katerina s'est trouvée à Mariupol. Le même jour, elle et ses parents réussissent à partir pour Zakarpattia, la région de l'Ouest. Son bien-aimé reste pour défendre la ville. Il reste dans le bataillon d'Azov depuis 2016. En couple depuis 8 ans, Bordan est en captivité en Russie depuis 1 an et 9 mois.
Навіть словами не можна описати, як важко на зв'язок він виходив інколи. Ну, просто я ж кажу, це були
SMS.
Oui, alors là, elle partage ses émotions de tristesse. Elle comprend que là-bas c'est l'enfer, mais elle ne peut rien faire, elle ne peut pas l'aider. Pendant 2 jours de défense de la ville depuis les abris d'Azovstal, son fiancé demandait de l'envoyer des photos de nourriture quand il n'avait rien pour manger. Il voulait tout simplement regarder ses photos de nourriture.
Et Bordan n'a pratiquement jamais pris contact avec sa femme durant les combats?
Oui, et lorsqu'il le faisait, il écrivait qu'il aimait et que si quelque chose l'arrive, il faut qu'elle continue à vivre. Alors que son compagnon défend la ville natale, Mariupol, dans ces conditions extrêmement difficiles, Katerina, qui a cessé de recevoir des nouvelles de son fiancé, tente de s'inquiéter de son sort.
Було таке, що його місяць не було на зв'язку. Я там писала якимось знайомим, які там іноді виходили на зв'язок.
Alors elle dit qu'il est arrivé qu'elle soit injoignable pendant 1 mois. La femme écrivait à des amis. Parfois, elle répondait, les amis répondaient qu'il était toujours vivant. Mais impossible de vérifier quand les avions larguent de bombes de plusieurs tonnes sur les différentes positions. Et puis en captivité, c'est un véritable enfer où l'on est battu, torturé. Et on n'a aucun contact avec la famille. Ici, Katerina ajoute qu'elle dit en fait que dans mes rêves, j'ai une réalité parallèle où je vis avec Bordan, où il revient 10 fois par jour. Afin de sauver la vie du personnel, les responsables ukrainiens ordonnent aux militaires de se rendre. Et Katerina reçoit un appel de la Croix-Rouge à l'époque, l'informant que Bordan a rempli une carte de prisonnier de guerre et qu'il est désormais sous la protection de la Croix-Rouge. Elle reçoit ensuite un appel de Bordan lui-même. C'est la seule fois qu'il a appelé. Il n'a pas eu d'autres appels, aucun contact. Et pendant ces 2 années, la famille n'a pas pu obtenir d'informations que par l'intermédiaire de prisonniers libérés. Et avant-hier, Bordan, elle a eu 29 ans. C'est son 2e anniversaire en captivité. Et tout ce que Katerina sait de son fiancé, c'est qu'elle mesure 1m80 et qu'elle pèse que 50 kilos.
Vous parliez de la Croix-Rouge. Il y a beaucoup de questions à poser à l'ONU et à la Croix-Rouge, justement.
Oui, il y a encore beaucoup de questions à poser à l'ONU, à la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge n'a pas encore indiqué combien de personnes sont mortes, combien se trouvent dans les hôpitaux de Donetsk sur le territoire non contrôlé et comment vont-ils rendre les morts. Ils ont promis aux familles et aux combattants qu'ils reviennent vivants. Et les familles des combattants demandent aujourd'hui au Comité international de la Croix-Rouge qu'est-ce qui se passe. Ils demandent d'être plus actifs pour faire libérer les militaires ukrainiens. Et d'ailleurs, en Ukraine, la Croix-Rouge a été victime d'un mouvement de haine pour avoir dialogué avec Moscou, alors que certains ne comprennent toujours pas son rôle d'intermédiaire.
Est-ce qu'il est possible que les combattants d'Azov retrouvent un jour la liberté ?
Les combattants d'Azov, comme le bataillon d'Azov, ont une place particulière dans le système de propagande russe. Les prisonniers servent de trophées de guerre et comme un élément de communication. Azov est porté comme un bataillon composé de nazis et de nationalistes ukrainiens. Et toutes les actions contre son existence et ses combattants font partie d'une mise en scène bien réfléchie. Avant-hier encore, la Cour suprême de DNR, c'est la République autoproclamée de Donetsk, Alors, la Cour a condamné à 25 ans de prison un ancien combattant du régiment Azov, Artyom Stupnitsky. Et le même jour, la même Cour de la République autoproclamée a condamné un sergent-chef du bataillon Azov, Roman Shebanov, à 28 ans de colonie à régime strict pour avoir bombardé des maisons résidentielles dans la région de Donetsk. Ce que la propagande russe fait, elle continue à utiliser ses prisonniers dans ses buts de propagande.
Et il faut savoir que chaque dimanche, dans les villes ukrainiennes, des rassemblements de soutien à ces prisonniers sont organisés.
Oui, selon les dernières données, au moins 4000 Ukrainiens sont retenus en captivité par les Russes. Il faut sortir dans les rues. Donc c'est pour ça que chaque dimanche en Ukraine, dans les grandes villes, il y a les mères, il y a les femmes, les fiancées de ces prisonniers qui sortent dans la rue pour parler de leur famille. Et le Kremlin ignore toutes les dispositions de la Convention de Genève. Les Ukrainiens sont très mal nourris, torturés et empêchés de contacter leurs proches. Et le pire, selon ceux qui ont réussi à revenir de captivité, c'est la façon dont les Russes traitent le régiment Azov. Ils font un exemple de ces gens-là. Plus d'un an et demi s'est écoulé depuis que l'ordre de cesser la défense de Mariupol a été donné et plus de 900 soldats d'Azov sont toujours en captivité en Russie après avoir dignement assuré la défense de Mariupol et empêché l'ennemi d'avancer en direction de Zaporizhia.
Xenia Jornoclé de la rédaction ukrainienne de RFI. Demain matin, édition spéciale consacrée aux 2 années qui viennent de s'écouler et sur ce qui peut se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Venons-en maintenant à la mort en prison de l'opposant russe Andrei Navalny. Les États-Unis viennent d'annoncer avoir sanctionné 3 responsables russes impliqués. C'était il y a tout juste une semaine, cette mort de Navalny. Et ce soir encore, sa famille, notamment sa mère, n'ont toujours pas pu voir son corps. Écoutons-la.
Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать,
вот здесь я родился. Que dit Madame Navalny?
Madame Navalny mère dit que les organes de sécurité, tels qu'on appelle les services secrets en Russie, insistent pour que la dépouille de son fils soit enterrée quasiment clandestinement, sans cérémonie, à proximité de la colonie pénitentiaire où il était détenu, et qu'en l'échange de cela, elle pourra le voir, à condition qu'il n'y ait pas de cérémonie officielle pour rendre hommage à celui qu'on appelle en Russie l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, ou devrais-je dire à celui qu'on appelait l'opposant numéro un à Vladimir Poutine. C'est véritablement la question qui agite en ce moment la société russe. Le responsable de Novaya Gazeta a même dit hier, qu'il était gênant dans un pays chrétien de devoir demander publiquement à ce que le président de la Russie veuille bien rendre le corps d'un fils à sa mère. Et c'est véritablement l'objet d'un scandale. Si vraiment Alexei Navalny ne présente aucune menace pour le pouvoir russe, comme l'affirme souvent la sphère pro-russe sur les réseaux sociaux, notamment, comment alors expliquer que les autorités essayent de prévenir toute possibilité de rassemblement populaire autour de la dépouille de l'avocat condamné à plus de 19 années de prison et envoyé dans le Grand Nord ? En fait, le problème, si on veut le regarder du point de vue politique, c'est qu'il réside dans le fait que Navalny est devenu non pas le nom d'un seul homme, mais le nom d'un mouvement. En mourant, il a acquis une dimension beaucoup plus large et notamment du fait de ses conditions de détention qui ont donné à sa mort un caractère particulièrement christique, ai-je l'habitude de dire, mais qui lui a donné un statut de martyr, souriant et acceptant en toute conscience sa destinée politique, mais aussi parce que sa femme elle-même a annoncé reprendre le flambeau de la lutte derrière lui et que 2 autres prisonniers politiques russes d'importance ont déclaré suivre ses traces, Vladimir Karamurza et Ilya Yashin.
Alors, il va falloir retenir ces noms. Dites-nous en plus sur ces 2 hommes. Comment expliquer d'ailleurs qu'ils soient restés en Russie au lieu de trouver refuge en Europe ?
Eh bien, Vladimir Karamurza, si on commence par lui, est aussi un résistant, on pourrait dire un opposant, mais aujourd'hui le terme le mieux choisi c'est résistant au régime russe. Il a subi 2 empoisonnements et est revenu en Russie de manière tout à fait délibérée. Il lui est particulièrement reproché par le pouvoir d'avoir activement plaidé et obtenu l'obtention d'une législation aux États-Unis et au Canada qui sanctionnait les responsables russes de la mort en détention d'un avocat, Sergei Magnitsky, qui avait défendu dans une affaire Border Heritage, qui avait défendu en fait une politique fiscale d'un groupe visé par le Kremlin.
Et il y a Yashin ?
Ilia Yachin a été condamné à 8 ans et demi de prison pour diffusion de fausses informations. Vladimir Karamurza, lui, a 25 ans de prison pour haute trahison, une première depuis l'URSS.
Comment ces deux hommes ont appris la mort d'Alexei Navalny ?
Par la bande. Ils l'ont appris en se déplaçant dans le centre où ils sont détenus et ils l'ont appris avec un grand choc, puisque cet homme est quand même le mentor des opposants en Russie. Mais ils ont tous notamment rendu hommage à Alexei Navalny, mais aussi appelé à faire le maximum désormais pour soutenir l'opposition et à libérer, c'est le cas d'Ilia Yachin, à libérer Vladimir Karamurza.
Xenia, quelle opinion ont les Ukrainiens de Navalny qui, avec lui, partagent finalement un ennemi commun, Vladimir Poutine ?
Alors, en Ukraine, les gens sont assez perplexes parce que d'un côté, les Ukrainiens comprennent bien que le pouvoir en Russie doit changer et on cherche ces personnes de l'opposition, on les regarde de près, on suit l'actualité, mais de l'autre côté, Navalny, je pense que les Ukrainiens se souviennent très bien de ce qu'il a dit sur la Crimée. Il avait comparé la Crimée à un sandwich qu'on ne peut pas retourner comme ça, c'est pas si
et
facile que ça.
Les Ukrainiens
ne
lui l'ont pas pardonné, on va dire.
Non, parce que si demain, par exemple, Navalny devenait le président de la Russie, la question de la Crimée, elle reste.
J'ajoute que les autorités russes viennent de menacer d'enterrer Alexei Navalny sur le territoire de la colonie pénitentiaire où il est mort. C'est en tout cas ce qu'affirment les partisans de l'opposant, accusant les enquêteurs de vouloir imposer des funérailles en catimini. Une fois n'est pas coutume dans Action du Monde, parlons de sport et plus particulièrement de football. Ce dimanche, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain tentera de conserver son avance de 13 points en tête de la Ligue 1, cela en recevant le club de Rennes. Il sera très intéressant de voir aussi ce qui se jouera dans les tribunes avec la réaction des supporters parisiens à l'égard de Kylian Mbappé. L'attaquant a annoncé qu'il va quitter le club à la fin de la saison. Paul Meyers, vous avez donc suivi ce qui peut être qualifié d'événement.
Oui, c'est plutôt une saga islandaise. Mbappé parlait déjà de quitter le PSG il y a 2 ans. Tout le monde pensait qu'il allait à Real Madrid. Real Madrid pensait qu'il venait dirigeant, mais les dirigeants du PSG ont annoncé que Mbappé allait rester. Et comme Mbappé l'a dit, continuer à faire ce qu'il aimait faire.
C'est-à-dire marquer des buts et gagner des trophées.
Mais en effet, ouais. Il a marqué des buts. Il est le meilleur buteur du PSG avec 244 buts. Et il a gagné quelques trophées supplémentaires depuis 2022.
Pas de trophée européen.
That's the problem. Et tout le monde s'attend à ce qu'il aille au Real Madrid, mais on a demandé à Mikel Arteta, le manager de Arsenal, le club de première division anglaise, s'il était intéressé par Mbappé.
Well, when there is a player of that caliber, we always have to be in the conversation. But as you said,
et donc la réponse?
Oui, he says, well, of course. S'il y a quelqu'un comme ça, Arsenal doit toujours être dans la conversation, mais ça semble qu'il sera à Madrid. Mais finalement, si Arsenal veut être la meilleure équipe possible, nous aurons besoin des meilleurs talents. Et Mbappé, il est doué.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre?
Bon, en fait, Arteta dit c'est plutôt cela qui compte, c'est que Mbappé veut aller à Madrid parce que c'est l'un de ses rêves d'enfant.
On va l'écouter.
Yes, well, I think the club that we are, I don't think that that's ever been an issue. You know,
et Arteta dit, je pense que le club que nous sommes, Arsenal, n'a jamais posé des problèmes. En fait, si quelqu'un veut jouer pour Arsenal, il y en a beaucoup. Et en fait, il dit que quand les joueurs quand ils ont parlé, ils disent oui, il y a un sourire dès que vous commencez à discuter. Et il dit c'est grâce à l'histoire d'Arsenal et à tout ce qu'on avait gagné et l'histoire du club.
C'est même si Arsenal se porte bien en ce moment en pointant à la 3e place de la Première Ligue, le Real de Madrid, c'est le Real de Madrid.
Mais en fait, c'est un peu ça. On peut dire si on a un choix de travail ailleurs ou à RFI, on choisit RFI.
Oui, enfin, le Real Madrid, c'est au soleil, alors que Arsenal, vous allez nous confirmer qu'il ne fait pas forcément la même météo. Et ça peut jouer dans la balance, peut-être pour Kylian Mbappé,
oui,
à le savoir.
Oui, c'est quelque chose que tout le monde veut veut jouer pour Real Madrid. Arsenal, c'est un projet qui est en train de monter et c'est plutôt ça, s'il est persuadé par quelque chose comme ça. Mais Real Madrid, à la fin, l'histoire, le glamour et tout ça.
Et à la fin, c'est Mbappé qui marquera le but, de toute façon. Paul Meyers de la rédaction anglophone de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI et sur l'application. Thank you.